commencer maintenant tout de suite avec le débat, enfin le débat question-réponse, et à cette occasion, François Ewald pourra utiliser certains des slides qu'il n'a pas présentés en répondant à certaines des questions. Juste pour votre information, on terminera à 12h30. Ceux qui le veulent, on peut aller déjeuner avec François juste après. Donc voilà, en fonction de savoir si certains veulent le faire, bah, prendra un train plus tôt ou plus tard. Donc voilà, dites-nous à 12h30 et en fonction de cela, on verra comment on s'organise. Voilà. Qui veut ouvrir le bain de questions? Rodolphe.
Comme une entreprise qui intéresse principalement philosophie et management, c'est la fonction de l'entreprise, le rôle de l'entreprise, la responsabilité de l'entreprise. Alors, dans ce contexte-là, que pensez-vous du projet ISO 26000?
C'est fort sympathique.
Préciser ce qu'est ISO 26000.
Peux-tu préciser ce
ISO 26000, donc d'abord ISO, c'est un organisme de certification qui a été développé dans le domaine de la qualité normalisation. Et qui a développé aujourd'hui ISO 26000, qui reprend toutes les notions. Et de responsabilité sociétale de l'entreprise, et apporter une certaine forme de normalisation sur l'environnement, la normalisation sociale, la normalisation économique, mais ne peut pas en faire une norme, ne donnera jamais un certificat de normalisation, mais donne un guideline ou de référence.
Moi je vous réponds deux choses. La première, c'est que qu'il y ait un projet de normalisation dans ce domaine témoigne que c'est une question qui, dont les entreprises ou les États considèrent qu'elle a pris suffisamment l'importance pour qu'il faille éviter, qu'il faille contrôler les effets négatifs dans la concurrence. Et donc on normalise pour pouvoir éviter les surenchères et les problèmes de dumping sur ces questions mal définies. C'est à ça que ça sert, les normes. Donc de ce point de vue-là, je dirais que c'est positif parce que ça témoigne que ce sont des notions qui ont pris suffisamment d'importance pour qu'on considère qu'elles deviennent dangereuses. Donc il faut les maîtriser, il faut les maîtriser dans un espace concurrentiel, et pour ça, on fait des normes, et par l'ISO, et ces normes sont des normes internationales qui permettront dans des marchés où on dira avec je ne sais pas quoi le Pakistan construire le réseau des eaux, etc. On va dire il faut que ça soit RSE. Alors la SOR, je ne sais pas quoi, l'ancienne menace des eaux, etc. commence à plancher et puis elle se trouve en concurrence avec des entreprises américaines, je ne sais pas quoi. Chinoises, etc., qui ont chacune leur interprétation de la RSE. Alors, évidemment, c'est embêtant, parce que ça rend la soumission du marché totalement incertaine et le fonctionnement des pots de vin garanti. Et donc, vous allez chercher à ce moment-là à vous prémunir, vous dire à ce moment-là, on utilisera la RSE au sens de la norme. De ce point de vue-là, c'est bien. Maintenant, d'un autre côté, qu'est-ce que vous normalisez? Qu'est-ce qu'on peut normaliser à travers ça? Et est-ce que une véritable responsabilité sociale des entreprises est normalisable? Ça, c'est. Est-ce que la vraie question est du côté de normalisation? Je considère personnellement que ça correspond à un autre domaine. Alors, moi, si je développe un peu cette réponse, et je ne veux pas être trop long, ce serait d'utiliser. Moi, je vous propose à ce moment-là deux lectures. La première, c'est il y a un livre fondamental sur la responsabilité. Si vous vous intéressez à ces problèmes, il y a un livre que vous devez absolument lire. C'est le livre de Pierre Aubin qui s'appelle La prudence chez Aristote. Ça, c'est absolument essentiel. celui-là. Pierre Aubin. Excusez-moi. Pierre Aubin. Pierre Aubin, c'est un philosophe français, spécialisé, qui écrit sur Aristote, qui a écrit une grosse thèse sur le problème de l'être chez Aristote, et puis sa thèse complémentaire, c'était à l'époque où il y avait une thèse complémentaire, porte sur la prudence chez Aristote. Ce livre est une merveille absolue pour moi sur ces questions et sur votre question de responsabilité sociale. Quelle est la thèse? Donc, ce qu'Aristote développe, donc, c'est cette vertu, c'est construit, propose une vision de cette notion grecque qui s'appelle phronesis. Alors, cette notion, à mon avis, le terme actuel de la phronesis, c'est responsabilité. Ça sera traduit par Cicéron, par providentia, qui va donner prudence. C'est dans cet univers-là. Bien. Donc, pourquoi c'est extrêmement intéressant? La thèse d'Aristote est la suivante. Il dit... Il part de la situation ontologique de l'homme sur Terre. Il dit le monde est divisé en deux. Il y a le monde du ciel et il y a le monde terrestre, le monde lunaire et le monde sublunaire. Le monde des étoiles, le monde du ciel, c'est un monde qui obéit à des lois mathématiques, c'est un monde parfait. Et dans le monde, dans ce monde-là, qui obéit à des lois qu'on peut décrire, qui sont des lois mathématiques, il n'y a pas de décision. Paradoxalement, ce qui fait la divinité, c'est qu'elle ne décide pas. C'est un monde de la régularité. Un monde où les événements se reproduisent éternellement selon leur propre loi. Il n'y a pas de décision. Et puis vous avez le monde des hommes. Lui, il n'est pas parfait, il est imparfait. Pourquoi il est imparfait? Parce qu'il est incomplet. Les dieux ont confié aux hommes un monde imparfait, un monde incomplet, et leur mission, leur tâche, c'est de porter ce monde à sa perfection. Alors ça, je pense que c'est très important pour vous, puisque donc, vous avez cette idée donc, d'un monde imparfait, donc, et selon les décisions qu'on prend, on le porte à plus ou moins de perfection, dans une vision où notre mission, c'est de le porter à plus de perfection. Donc ça, je pense que ça, c'est une notion extrêmement importante. Nous sommes dans un monde d'incertitude, nous avons des décisions à prendre, et le sens de nos décisions, c'est vont-elles vers plus ou moins de perfection?
Une perfection dans son de parfaire, d'aller au mieux de ce qu'on peut faire.
D'aller au mieux de ce que de porter le monde là où il doit être parfait, là où il doit être accompli. Et ça, c'est très important. Parce que dans une vision écologique, dans une vision, vous prenez l'environnement, vous prenez la nature, donc vous dites, je suis en charge d'un monde imparfait, il y a des maladies, il y a ceci, il y a cela, etc. Et je dois le porter à plus de perfection, cette perfection portant sur le rapport de l'homme et de la nature, portant sur le monde complet. Bien, vous voyez cette idée du monde imparfait. Et le problème, c'est que dans mes choix, donc moi j'ai à décider comment, parce que je suis confronté à l'incertitude. Alors ça, je pense que c'est du point de vue ontologique, pour moi c'est essentiel, il n'y a de responsabilité que lorsqu'il y a d'incertitude et décision. La responsabilité est liée à la décision. Lorsque vous respectez une procédure, il n'y a pas de responsabilité. Tout le mécanisme des procédures, des régulations, est un mécanisme qui vise à éviter la responsabilité. Pourquoi vous faites des régulations des banques après la crise? Parce que vous considérez qu'elles sont irresponsables. Si vous considérez qu'elles sont responsables, vous n'avez pas besoin les introduire dans des je pense qu'il y a opposition théorique, enfin opposition philosophique entre un monde où vous multipliez les procédures pour que les gens passent à décider, et un monde au contraire où vous les placez dans une situation où ils ont à décider. Bien.
On peut décider de ne pas respecter les procédures.
Alors ça, c'est des problèmes effectivement majeurs on peut décider de ne pas les respecter, effectivement, à ce moment-là, on se réinstitue responsable, on peut être sanctionné. Alors, soit on va considérer que c'est bien, et là, c'est tous les problèmes qui sont liés, par exemple, est-ce que je dois appliquer un ordre si je suis allemand en 1942, ou si je m'appelle Papon, et que je suis préfet à Bordeaux.
Français,
dans le monde du travail, on voit quand même beaucoup la distanciation des gens par rapport.
C'est possible, oui, c'est exact, mais vous avez aussi eu. Moi, je m'étais intéressé au management du cercle de qualité. Par exemple, qui effectivement sont des managements qui sont faits pour faire que les individus prennent en charge la conduite en quelque sorte de leur atelier à partir d'une grande déstabilisation, puisqu'il y a une capacité ou un devoir de prise de parole. Mais oui, on peut. Il y a des tentatives de management et qui sont liés d'ailleurs au fait qu'on pense que quelqu'un qui est mis en situation d'avoir à décider va effectivement être lié à sa décision de façon beaucoup plus intense que par rapport à une procédure. Mais donc effectivement, mais ça ne contredit pas ma thèse, qu'il n'y a de responsabilité que lorsqu'il y a décision et incertitude. Donc voilà, je pense que dans une entreprise, en réalité, on fait en sorte, le monde économique est un monde qui se défie de la responsabilité. On met des régulations, on met des procédures et on essaie de limiter les zones en fait de décision, parce que vous voyez bien que ces décisions en incertitude, elles sont souveraines. Vous êtes celui qui décide, le responsable, il décide en dernier ressort. Et il n'y a pas d'autre derrière lui auquel il puisse se protéger. Alors, donc ça, je crois que c'est très important. Donc, décision, incertitude, responsabilité. Alors, ce qu'Aristote introduit, c'est l'idée que comment se prend la décision dans cet univers-là. Et il dit, elle va mobiliser. Alors, puisqu'on est ici dans un truc de neurologie, ce qu'il m'a expliqué avant tout à l'heure, et bien là, c'est très intéressant pour le neurologue, parce que Aristote, il dit, ça doit mobiliser des facultés particulières. Et une faculté intellectuelle particulière qui est la délibération. Et il faut organiser la délibération. Il y a une forme de construction intellectuelle. Et la délibération, c'est assez drôle, puisque si vous lisez Pierre Aubin, vous allez trouver tout ça. C'est très proche de nos pratiques de démocratie participative, qui cherchent à retrouver aujourd'hui ces formes de délibération, qui est une forme de décision qui n'est pas l'application. Et ce qu'Aristote explique, c'est que la décision dans ces situations-là ne peut pas être l'application d'un savoir scientifique, parce qu'il n'est pas pertinent dans ce domaine-là. C'est un régime propre de jugement, et le jugement délibéré, le jugement délibératif.
Ça s'applique à ce qu'on appelle la concertation.
Qui peut... Alors, je pense qu'on pourrait dire que la concertation sociale, dans le monde social, serait une forme... De délibération, c'est plus compliqué. Lorsque vous avez à délibérer dans le monde social, c'est plus ce que vous mettez dans le tapis et dans le jeu est beaucoup plus circonscrit que dans ces situations où vous sentez en responsabilité du monde. Je termine en disant donc, ce modèle-là me semble extrêmement intéressant pour penser la RSE au sens philosophique du terme. C'est-à-dire que si on voulait donner à la RSE une vision ontologique, vous dites à ce moment-là, qui sont les agents aujourd'hui qui sont en charge de porter le monde à plus de perfection? Vous allez dire, ces agents sont les très grandes entreprises, soit financières, soit industrielles, dont nous dépendons tous en réalité aujourd'hui plus que des États. Ce sont les agents ces agents à qui nous devons faire confiance en quelque sorte pour... Elle crée l'irréversibilité, elle crée le monde, c'est à travers elle que le monde se transforme. Mais vous-même, dans la vision aristotélicienne, nous n'avons pas le choix de rester dans la perfection, puisque nous avons constamment à décider. On est embarqué. Donc vous ne pouvez pas ne pas choisir, vous ne pouvez pas choisir de ne pas choisir. Parce que ça, c'est déjà une décision. Vous avez choisi de porter le monde à moins de perfection. D'accord? Vous ne pouvez pas rester neutre. Il faut décider. Vous créez l'irréversibilité. Donc il y a des grands agents aujourd'hui à travers lesquels il y a de l'irréversibilité, le monde est produit, le monde est constamment produit.
Et vous pouvez dire à ce moment-là que, eh bien, il faut convoquer ces entreprises à nous dire en quoi elles portent le monde à plus de perfection, quelle est leur, et quelles sont en même temps les procédures à travers lesquelles les choix d'irréversibilité qu'elles créent sont des choix qui sont susceptibles de répondre à cette interpellation. Quelle forme de délibération, comment est-ce qu'elles prennent leurs décisions, etc., etc. Donc de ce point de vue-là, je considérerais que la norme ISO est un épiphénomène par rapport à une interpellation beaucoup plus radicale que nous avons vis-à-vis des entreprises, qui est de savoir, nous en dépendons, elles fonctionnent selon des formes qui sont absolument pas, que nous ne contrôlons pas, nous contrôlons extrêmement peu, et nous attendons d'elle, et nous sommes, dans la mesure où nous en dépendons, nous attendons qu'elle soit capable de répondre à ces interpellations.
Merci. Je ne crois pas qu'on puisse dire, même si c'est un rapport très important, les entreprises sont des agents.
C'est ça les agents. Qu'est-ce que vous mettez comme autre agent? Les partis politiques.
Disons que
c'est un peu centré.
Par rapport à cela, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir votre avis sur l'interaction entre les agents. Et donc, on a eu Benoît Friedman, qui est un philosophe du droit, qui fait pas mal référence à Bondas, par exemple, qui dit qu'aujourd'hui, la régulation naît de l'interaction, sans aucune règle, aucune, entre les différents acteurs, que ce soit les entreprises, les citoyens, les ONG, les groupes de pression, l'État, les juges, etc. Et que c'est un jeu où tous les coups sont permis, mais qui, en l'absence de droit, d'un droit mondial, force effectivement les entreprises à adopter des règles de fonctionnement, et finalement la RSE en est un des produits. Alors, vous êtes d'accord avec
ce que vous disiez? Ce que je réponds, c'est bien entendu, les États existent, leur pouvoir n'est pas négligeable. Évidemment, l'opinion existe, leur pouvoir est loin d'être négligeable, mais je maintiens ma thèse que dans un univers globalisé, avec les concentrations de pouvoir auxquelles on assiste, je regrette, je considère, et les libérations que la globalisation a permis, dire que la globalisation s'est faite parce que les entreprises ont voulu se libérer des tutelles étatiques en particulier, dans lesquelles elles étaient situées, eh bien, ce contexte-là donne aux entreprises un pouvoir qu'elles n'avaient pas jusqu'alors. Et les place dans une situation de domination. Ça, moi, je maintiens cette thèse-là. Et ce pouvoir est de plus en plus concentré, vraiment dans des nombres, je trouve, extrêmement réduits, dans de très grandes entreprises dont les autres dépendent, qui me fait douter personnellement des théories sur le marché. Sur l'efficacité des marchés. On est constamment dans des situations de cartel, des situations de concertation. Bon, on pourrait dire que c'est, on vient à des formes de corporations qui, finalement, si c'est bien organisé, fonctionneront au bien de tout le monde. Bon, ça, c'est un autre sujet. Alors, par rapport à ça, dans la situation présente, je pense que les États ont certainement un rôle, mais toujours un rôle qui n'est plus du tout un rôle d'organisateur. Il est un rôle qui est toujours de réaction. Ils réagissent, ils n'agissent pas. Ils réagissent en particulier au conflit qui est organisé entre ces grands agents et une contestation multiple du citoyen, du consommateur, etc., qui, dans la situation d'incertitude dans laquelle nous sommes, est susceptible d'avoir extrêmement de pouvoir. Et a un pouvoir tout à fait réel, et d'autant plus réel que les régulateurs publics n'ont pas de légitimité. Ils ne savent plus. L'entreprise a perdu la sienne, car on ne sait pas si elle nous porte le progrès ou le bien ou le mal, on ne le sait pas. L'État ne peut pas le décider. Et on est confronté à des conflits de valeurs sur la légitimité des entreprises, et l'État intervient pour essayer de trouver des compromis, etc. Donc je suis d'accord avec vous. Donc il n'y a pas que les grandes entreprises, il y a d'autres agents, il y a les agents
sociaux, il y a des agents publics. Les agents sociaux ont un très grand rôle de contestation, car cet univers-là organise de la contestation, organise de la critique, etc. Mais ça, c'est un rôle de contre-pouvoir. Et elles exercent un contre-pouvoir, je pense que les associations assument, en ne voulant pas prendre le pouvoir, mais en voulant être, en exerçant le pouvoir, uniquement en prenant le pouvoir sur ceux qui l'exercent. Exemple type, pour moi, c'est, on a parlé un peu hier soir, c'est Nicolas Hulot en France. Ce type-là exerce le pouvoir sur le pouvoir sans pouvoir l'exercer. Et le principe de précaution est un des instruments à travers lesquels des groupes peuvent prendre le pouvoir sur le pouvoir sans avoir à l'exercer. Ça, c'est, et avec une grande efficacité. Il y a des instruments juridiques, etc., qui donnent beaucoup de pouvoir à ces groupes. Et donc, oui, il n'y a pas qu'un seul agent, il y en a plusieurs, mais je pense qu'il y a un leadership des grandes entreprises.
Justement, moi j'ai deux observations en fait, qui pourraient être posées particulièrement sur le projet. Les entreprises sont reconnues comme des êtres juridiques. Ce sont des êtres, ce ne sont pas des êtres humains, ce sont des êtres virtuels. Et donc on dit très bien que leur responsabilité est toujours limitée. D'ailleurs, elles portent toutes les statuts des maîtres de société. Et donc, tout à fait d'accord avec vous pour dire qu'elles prennent une importance fantastique dans le phénomène de globalisation, mais par contre, les règles qui leur demandent d'agir disent ah, elles sont responsables d'une certaine limite. J'abrège dans les limites de nos fonds. Hein, vous prenez l'exemple de la Hongrie, l'entreprise qui. Transformation de bauxite en aluminium qui fait des dégâts, on peut la rendre responsable, elle ne sera responsable que dans les limites de ses fonds propres, dans la mesure où les dirigeants n'ont pas fait de faute. C'est ma première remarque, donc ça me paraît être extrêmement important. Ma deuxième, et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, l'entreprise était avant exercée en nom propre, et maintenant elle est exercée en nom collectif, en limitant la responsabilité. J'ai retrouvé ici, en fonction de notre débat d'aujourd'hui, un merveilleux article de Stéphanie Blankenberg, publié en anglais, et qui dénonce cette puissance accordée à des êtres juridiques dont la responsabilité est limitée. C'était ma première remarque. La deuxième, c'est que je n'ai pas entendu du tout aujourd'hui la notion de responsabilité factuelle. Et je ne sais pas où la mettre dans votre responsabilité. Et j'appelle les responsabilités factuelles le fait d'être auteur de la différence de résultat entre ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Je déplace ce crayon de là à là. Je suis responsable factuel du déplacement de ce crayon. Ça n'a pas de conséquences, peu importe, mais c'est simplement un exemple. Donc, où placez-vous le concept de responsabilité factuel, de facto, dans l'ensemble des notions que vous nous avez citées ce matin et qui m'a dit.
Alors, sur le premier point, il me semble, on avait discuté un peu pendant la pause, il me semble que vous pointez là quelque chose. Qui mérite d'être creusé. La question est de savoir si on peut parler de responsabilité des entreprises à partir du moment où elles ont les gouvernances qu'elles ont aujourd'hui et l'organisation juridique qu'elles ont aujourd'hui. Alors, ça, oui, vous avez cette question, me paraît, oui, c'est une très bonne question. Ça, la conséquence veut dire que si vous voulez, la conséquence pour parler de RSE voudrait dire qu'on ne peut parler de RSE qu'à condition que dans le cadre de responsables d'entreprise où les dirigeants sont responsables.
J'aimerais dire qu'il n'y a que des individus d'être humain.
Mais d'accord, okay. Donc, ce que ça conduit, vous pouvez dire ça, vous pouvez développer la thèse que si on veut développer une véritable RSE, ou
Un, ça veut dire qu'il faut changer l'organisation des entreprises et limiter le recours à la société anonyme. Deux, ça veut dire que tant que cette organisation n'a pas, ces transformations n'ont pas lieu, la RSE est un truc superficiel. Oui, on peut dire tout ça. Je suis d'accord. Je suis bien d'accord. Alors, de façon négative, ça correspondrait à un constat qui, moi, traverse un spectre de temps à autre, c'est qu'en réalité, l'histoire n'est pas nécessairement l'histoire de la recherche de sa responsabilité, mais plutôt l'histoire de savoir comment on peut se défaire de ses responsabilités. Et que l'ignorance sur lui-même est très grande, en réalité, pour pouvoir, quand on est, dès qu'on est sentiment de pouvoir être un point d'imputation final, de savoir comment on va pouvoir s'en débarrasser. Et que là, à tous les niveaux, c'est-à-dire, j'avais voulu dire ça, entreprise, qu'est-ce que j'avais écrit, voilà, entreprise responsable, dirigeant irresponsable. Et je pense qu'il est problématique le discours, quand il y a eu toute cette montée de la, donc à travers des plaintes de l'opinion, de citoyens, la réponse des entreprises a été qu'est-ce que c'est que il y a beaucoup trop de responsabilités. Il faut arrêter cette responsabilisation. Il faut mettre un terme à tout ça. Donc, là, on est dans un moment d'aversion à la responsabilité plutôt que de revendication de ces responsabilités. Alors, pour ce qui concerne la responsabilité factuelle, je ne vois pas bien de quoi vous.
Est-ce qu'il n'y a pas un mélange de causalité et de responsabilité dans l'exemple que vous donnez ? Parce que toute causalité,
toute la responsabilité dont on a parlé, notamment dans le domaine du droit, elle repose sur un premier principe, c'est qu'il faut d'abord reconnaître que quelqu'un est de facto responsable. Et puis, on peut lui imputer une responsabilité.
Quand vous dites de facto responsable de quelque chose, c'est en fait, elle est la cause.
Non, alors, je pense que les relations d'imputation, la responsabilité, c'est au sens pénal ou au sens civil, c'est être désigné comme celui où on va imputer quelque chose. Donc, je pense qu'il faut partir d'une relation, de la notion de relation d'imputation. Maintenant, lier l'imputation à la causalité. Ça, c'est une décision philosophique récente.
C'est un canon du droit élémentaire. On a imputé une responsabilité juridique à quelqu'un qui n'est pas responsable de facto.
Bien sûr que si. Bien, on ne cesse de le faire.
Oui.
C'est, on n'arrête pas de le faire.
Non. Alors, c'est.
D'abord parce que.
C'est que les normes définissent ce qu'elles entendent par de facto.
Non, mais ça. C'est, ce que vous prenez. Vous prenez comme donné quelque chose qui est construit. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a des imputations, et ces imputations entraînent des conflits. Alors, qu'on va chercher et le savoir pour dans quelle mesure une imputation est juste ou non. Alors, c'est donc des débats et qui vont être tranchés, donc des litiges et qui sont tranchés en particulier. Dans des arènes, dans des espaces que nos sociétés depuis la Grèce ont construits, qui sont des espaces judiciaires. Bien. Alors maintenant, quand vous regardez l'histoire, la manière dont dans l'histoire ces jugements d'imputation sont traités dans ces arènes, le fait qu'on les lie à la causalité ne va absolument pas de soi. Vous avez des exemples multiples, et en particulier les tragédies grecques sont en particulier des débats sur des problèmes d'imputation avec tout un tas de conflits entre des manières de désigner les imputations, entre le témoignage, entre la prophétie divine, etc., etc. Donc vous avez. Alors ce qui est vrai, c'est qu'à partir d'un certain moment, et en particulier depuis.
l'institution de l'enquête, c'est-à-dire, en fait, à partir du XIIe siècle, là, il y a eu un, et à travers le développement scientifique, la volonté a été de limiter les imputations à la recherche de rapports de causalité. Et donc, on a construit tout un dispositif judiciaire qui va passer par l'expertise pour mettre en œuvre cette vision. Mais aujourd'hui, on est, me semble-t-il, à un moment, pour beaucoup de raisons, où ce lien entre l'imputation et la causalité se défait complètement. Parce qu'il y a beaucoup d'imputations qui sont faites, où on se donne des causalités. Alors, vous pouvez dire qu'on est toujours dans un schéma de causalité, mais on se donne des causalités qui ne sont absolument pas prouvées. Ce sont des causalités d'imputation, de présomption systématique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure pour le sang. On impute ça, et c'est ce qu'on a fait pour les accidents du travail. Qu'est-ce qu'on a fait pour les accidents du lundi? Est-ce qu'on va chercher si le patron a mal organisé son atelier? Pas du tout. Ça, c'est trop compliqué, ça fait des coûts de transaction très élevés, ça emmerde la science sociale, ça donne aux ouvriers la possibilité de contester l'autorité patronale, il vaut beaucoup mieux organiser une transaction. Assurons tout ça, organisons une transaction, nous ferons les imputations sans causalité, par répartition. Donc, vous voyez, ça c'est un régime très moderne, et on se libère de l'imputation. Alors vous allez dire, oui, mais c'est vrai pour la responsabilité civile, pas pénale, oui, c'est exact. Donc ça, alors à ce moment-là, ça crée des distorsions, ça produit des complications. Mais je crois que ça ne va pas de soi de dire qu'il faut la vision de l'homme responsable au sens juridique n'est pas nécessairement celle de l'homme libre, volontaire et causal.
L'exemple, c'est un ministre qui démissionne parce que son ministre a fait un truc. C'est pas lui qui l'a fait. Ah, oui. Il est responsable.
Oui, je voudrais revenir sur votre préoccupation là. Ce que je comprends, en tout cas que je partage très largement, c'est que les entreprises aujourd'hui n'ont absolument pas contre le pouvoir et risquent d'être demain encore plus qu'aujourd'hui. Social, social. peut voir émerger quelque chose qui pourra être un véritable interlocuteur dans le domaine du travail, dans le domaine de l'environnement, du droit des consommateurs, un véritable interlocuteur pour ces entreprises.
Alors, je réponds sur le monastère. J'ai réfléchi sur le problème de compliance. Et tout ce débat sur la compliance, la dénonciation de la compliance aujourd'hui dans les banques. J'ai participé à la formation des compliance officers du Crédit Agricole. Et j'ai réfléchi un peu à cette question qui me paraît une question très intéressante. Parce que vous avez une interprétation de la compliance qui consiste à dire précisément vous faites des irresponsables qui remplissent des formulaires. Vous avez une autre version de la compliance qui est de savoir quel type de salarié ou quel type d'agent vous cherchez à construire à travers le rapport qui est imposé par la compliance avec la règle. La compliance, c'est le rapport avec une règle. Donc c'est une dimension proprement éthique. C'est quel rapport je dois avoir avec la règle. Et moi, je pense qu'en réalité, on a un problème de traduction en français, de compliance. Conformité, ça ne va pas du tout. Ça accentue uniquement l'aspect je remplis les formulaires et je me protège contre un futur procès. Si on prend ça au sérieux, compliance, pour moi, renvoie au rapport ou pourrait être analysé à partir du rapport du moine avec la règle, de son ordre. Hein, et un rapport, parce qu'il y a un problème de la compliance dans les organisations aujourd'hui où on suppose que ça marche mieux si on utilise l'énergie des salariés et comment vous pouvez à la fois demander de l'autonomie et en même temps imposer l'observation scrupuleuse de règles de plus en plus complexes. Et je me demande toujours s'il ne faudrait pas réfléchir, reprendre le modèle monastique qui a été un modèle économique absolument fantastique, parce qu'ils possédaient tout. C'est un succès total. Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre, et moi je proposerais la traduction par observance. Hein? Et donc comment vous cherchez à construire un rapport d'un sujet avec une règle tel que son rapport à la règle va le libérer. Et non pas introduire une soumission supplémentaire. Donc je pense que c'est ce qui est recherché. Donc c'est à ça que je pense, donc je suis d'accord avec vous, il faudrait réinterroger les monastères. Il y a eu des organisations, on a complètement oublié comment ça fonctionnait, mais encore une fois, je pense que là, il y a des choses très intéressantes dans la théorie du management. Alors, en ce qui concerne maintenant la délibération. Alors, pour ce qui concerne ce que j'appelais la première RSE, là, il n'y a aucune délibération, il n'y a aucune concertation. La concertation, plutôt, il y en a deux, enfin, il y en a trois. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez la grande industrie qui est confrontée avec elle-même, entre patrons, avec les pouvoirs publics, dans une perspective qui est celle, encore une fois, le problème du paupérisme. Va dire, est-ce que le développement industriel n'aboutit pas à la dégradation de la nation et à l'incapacité qu'on va observer, en particulier à travers la conscription. C'est-à-dire qu'on constate que la manière dont la vie des gens est organisée les détruit, produit de la dégénérescence, produit de la dégradation. Et donc, ça pose un problème à l'époque, les pouvoirs publics, c'est. On est quand même dans des États qui sont très forts. Donc la question est de savoir, est-ce qu'on peut laisser ça continuer? La question se pose, la question est vraiment posée. Et puis d'autre part, vous avez un problème entre patrons, qui est de savoir si on s'engage dans des politiques différentes, on ne peut le faire qu'ensemble. Parce que sinon, évidemment, on va avoir des problèmes de dumping, de freerider, etc. D'où le fait que vous avez en même temps la revendication patronale de dire nous allons nous en charger et nous allons vous faire la preuve au pouvoir public que on est capable de faire de ces organisations des choses, comment dire, progressistes, enfin qui apportent de l'amélioration, ça c'est notre affaire, et en même temps ils revendiquent la loi, parce que c'est eux qui font la loi sur le travail des enfants, qui est en fait une loi qui va organiser la concurrence dans l'utilisation de la main d'œuvre entre eux. Et ils savent très bien que quand ils font la loi sur le travail des enfants, c'est la loi du textile, des grandes industries textiles de Mulhouse, qui impose une norme pour tout le monde, et en particulier pour ses petits concurrents. Hein, donc, hein, donc, voilà. Donc, bon, mais c'est une décision. Alors, ensuite, ce n'est que les procédures de concertation sociale, elles n'apparaissent qu'à la fin du 19e, dans un contexte tout à fait différent, qui est celui du solidarisme. Et quelques mots là-dessus. L'idée est la suivante. Bon, ce qui est fondamental, c'est que donc, à la fin du 19e, on passe d'une vision, encore une fois, où le tout précède ses parties. La vision durkheimienne. Les sociétés existent avant les individus. L'individu, c'est un produit de la division du travail. On commence par des sociétés très compactes, complètement homogènes, et elles se dispersent et elles s'individualisent. Donc l'individu n'est pas l'origine, l'individu est un produit. Bien. Et à partir de tout précède ses parties, donc le tout, c'est le tout qui a une histoire, c'est la société qui a une histoire, les individus ont l'histoire que la société leur réserve. Ok ? À travers ces processus. Et ces processus d'individualisation sont en même temps des processus très injustes, parce que certains se trouvent placés dans des positions où ils reçoivent peu. C'est notre malheur, c'est le malheur des classes moyennes. Elles reçoivent peu, elles prennent plus. Enfin, elles reçoivent plus de problèmes que les autres. Plus vous êtes haut dans la hiérarchie, plus vous allez recevoir, et moins vous êtes affecté. Moins vous avez de difficultés. Tous les coûts de transaction de la vie quotidienne sont effacés. Vous avez un chauffeur, le secrétaire n'est plus performant, etc. Tout est beaucoup plus facile. Moins vous avez de choses à prendre en charge, etc. C'est un peu tout ça. Bon, alors, la vision solidariste va être de dire, puisque c'est une histoire du tout et que la distribution des avantages et des charges n'est pas juste, il faut la rééquilibrer. Donc il y a une autorisation, il y a une légitimité à ce que la société ait un travail sur elle-même qui combatte ses tendances naturelles. Ok ? Et ça doit se faire en fonction d'un sentiment de la responsabilité, d'un sentiment qui est lié à la notion de solidarité. Quelle est cette responsabilité ? Elle est double. Un, puisque comme individu, je suis un membre du tout, de la société, je ne peux pas prétendre être mon origine, je ne suis qu'un être social. Et ce que je suis, je ne le suis que parce que j'hérite. Moi, François Eval, je ne peux pas m'identifier comme étant ma propre origine, je ne suis rien sans mes parents, je ne suis rien sans l'histoire de l'Europe, je ne suis rien sans l'histoire de l'immigration allemande en France, etc. Et j'hérite de tout ça, j'hérite de tout un capital, et d'autres n'ont pas le même héritage. Et pourtant, moi, je ne peux vivre, je ne suis ce que je suis, que parce que j'hérite du passé et parce que je bénéficie de toute une série d'échanges actuels avec d'autres individus qui me produisent, plus ou moins volontairement, toute une série de services et un environnement qui est favorable. Donc j'ai le droit d'intervenir pour compenser les injustices. Problème. Donc il y en a qui finalement reçoivent plus qu'ils ne donnent. Comment on va rétablir l'équilibre ? Alors là, il y a un moment extrêmement intéressant dans le solidarisme, il y a eu une première vision qui est de dire finalement, on pourrait faire un calcul exact de ce que chacun touche et de ce que chacun donne. Donc quelqu'un qui naît dans une... j'imagine dans ces quartiers-là, qui n'aurait pas été plus pauvre que Bruxelles. Donc il arrive brusquement, il naît avec un avantage considérable par rapport à la banlieue pakistanaise, ou je ne sais pas quoi, congolaise, j'imagine ici, de Bruxelles. Bien. C'est complètement. Et est-ce que le type qui naît dans ce quartier, il va effectivement, au cours de sa vie, avoir une activité telle qu'il va rembourser tout ce qu'il a reçu? Il va rendre, finalement, tout ce qu'il a reçu? Non. Donc, on va le taxer. On va le faire qu'il donne plus que finalement il ne donnera naturellement. On va faire des compensations. On va faire des compensations, en particulier par l'impôt. Problème, est-ce qu'on peut calculer tout ça? Alors, il y en a qui ont eu le rêve. Vous voyez, si vous calculez ce que chacun, le type ici, il doit redonner, on va aller prendre les Français, là, qui sont aussi dans les quartiers de Bruxelles, défiscalisés. Bon, si vous allez chercher ça, si vous commencez à faire les comptes, mais bien vous arrivez dans une société totalitaire. Vous n'êtes pas loin des camps de travail, etc. Donc, Léon Bourgeois, qui est théoricien de tout ça, il a eu peur de sa propre ambition, et il a dit, on pourra considérer que les redistributions des avantages et des charges sont justes si on peut considérer qu'elles font l'objet d'une ratification a posteriori. Et il a qualifié ça de quasi-contrat. C'est la notion de quasi-contrat social. Et comment on peut constater qu'il y a eu ratification a posteriori? Eh bien, si vous organisez des syndicats, si vous organisez une représentation sociale, et que cette représentation sociale a mené à négocier sur les avantages et les charges à propos de tel ou tel, des accidents de travail, de l'assurance maladie, etc., ne conteste pas. Ça ne veut pas dire que c'est juste en soi, mais ça veut dire que le contrat, dans sa forme actuelle, est ratifié, en fait, est accepté. Et donc, à ce moment-là, vous organisez donc un dispositif où il faut qu'en permanence, donc une négociation permanente, dans lequel il faut, vous êtes constamment, vous devez vous chercher à voir si, tel que sont faits les échanges, il doit y avoir, c'est juste ou c'est pas juste. Alors c'est intéressant pour vous, cette affaire-là, dans la modalité de RSE. Pourquoi? Parce que, vous voyez, il y a la notion d'héritage. Et l'idée donc, l'idée que nous recevons est du passé, et nous avons une obligation par rapport à l'avenir, c'est de léguer à nos enfants la même société, mais mieux, mais en mieux. Et donc, cette idée-là est très près de certaines thèses écologistes dans lesquelles disant nous ne sommes pas les propriétaires de la nature, nous en sommes des usufruitiers, et nous avons à transmettre aux générations futures une nature qui soit en quelque sorte améliorée par rapport, où elle soit embellie en quelque sorte par rapport à ce dont nous avons hérité. Donc cette idée, elle n'est pas si récente que ça. Vous pouvez tout à fait considérer qu'elle est formulée dans le Solidarisme, qui est complètement oublié aujourd'hui. Alors maintenant, les problèmes aujourd'hui de la délibération me semblent poser, eux, lorsque vous êtes dans cet univers-là, vous raisonnez dans un champ qui est relativement limité, qui fonctionne très mal, qui est un champ, puisqu'ici vous êtes tous des spécialistes, si j'ai bien compris, qui est un champ en réalité de cérémonie sociale très inefficace. On peut considérer que absolument indispensable, très coûteuse en temps, ça passe de temps en palabres indéfinis, où les acteurs veulent fondamentalement être connus, et ça dépend du temps qu'on leur consacre, etc., mais finalement acceptent leur subordination. C'est une chose. Et alors, moi, je pense que quand on parle aujourd'hui de démocratie participative, lorsque dans la charte de l'environnement française, on a inscrit l'article 7 qui prévoit que tout citoyen peut participer ou doit participer à la décision publique en matière d'environnement, on recherche l'organisation d'une délibération collective sur ces questions-là. Alors, elle existe déjà, elle prend des formes. Elle ne prend pas de forme organisée, mais elle prend des formes multiples. Soit c'est des conférences de citoyens, soit c'est des... Il y en a les Grenelles, enfin il y en a... Mais il n'y a pas de... mais je crois que c'est un enjeu fondamental de savoir comment on peut délibérer collectivement sur de tels enjeux.
Légitime face à l'entreprise.
Pardon ?
Aujourd'hui, il n'y a pas d'acteur. Autant les syndicats avaient la crise, c'était légitimité dans le domaine du travail face à l'entreprise. Autant aujourd'hui, pour les autres, et même pour le droit du travail, et leur communauté multinationale, il n'y a pas d'acteur légitime pour négocier
avec l'entreprise. Quelle serait la légitimité ? Qu'est-ce qui fait qu'on est légitime ? C'est une grande question.
Parce que les syndicats sont libres. Leur avis, ils sont acceptés à posteriori comme étant légitimes. Les syndicats, dans le domaine du droit du travail.
C'est.
Et sinon, ce que vous
voulez. Il ne faudrait pas légitimité et l'égalité.
Oui, c'est ça.
Oui. Je pense que c'est pas nécessairement.
La légitimité, c'est ce qui est fondé en respect de l'être humain. La légalité, c'est ce qui est fondé en respect de l'amour.
Oui, mais la question de savoir si nous sommes dans une vision philosophique de la RSE, une vision ontologique de la RSE à l'âge de la globalisation et des préoccupations d'environnement. Bon, nous disons, moi ma vision c'est la suivante, en réalité nous avons affaire à quelques très grands acteurs qui ont un pouvoir considérable. La question est de savoir dans quelle mesure les décisions qu'ils prennent, qui nous engagent les générations futures, sont des décisions qui sont suffisamment délibérées. Bien. Puisqu'elles doivent être délibérées. Va se poser la question de savoir, effectivement, qui est peut-être appelé à... Comment organiser cette délibération. Alors, c'est d'autant plus compliqué que, dans la délibération, vous voulez faire parler les générations futures. Vous voulez faire parler les oiseaux. Il faut faire parler les microbes qui font partie de la biodiversité, il faut faire parler les oiseaux, etc. Moi j'ai eu des discussions avec un bon copain, avec lequel on n'est pas d'accord, mais j'aime beaucoup, qui est Bruno Latour, c'est certainement, là qui, dans vos débats, est un personnage indispensable. Donc Bruno Latour, moi je m'étais amusé à discuter tous les deux sur ces questions, lui proposait de reconstituer en France le Sénat. À partir de. Qui sont les personnes qui sont aptes à parler pour les petits oiseaux et les générations futures, c'est les savants. Donc on va recomposer avec des sénateurs. Il y aura à la fois une composition territoriale, mais aussi une composition de représentants des abeilles, qui seraient les habitants, enfin des spécialistes de l'apiculture. Etc. Et on va mettre tout ça ensemble. Ben, vous voyez bien que si vous faites ça, vous allez créer une cacophonie absolument incroyable. Donc la question est de savoir, quand vous avez fait ça, comment vous arrivez à une décision. Parce que la délibération doit aboutir à une décision. Mais là, on ne sait pas. Pour le moment, nos sociétés ne savent pas le faire. Là, on ne sait pas. On ne sait pas comment les délibérations. On aboutit à de l'indécision. Donc on aboutit à des moratoires, regardez les OGM, c'est typique. On aboutit à des... On ne décide pas, on reporte indéfiniment la décision. On ne sait pas comment trancher, et tout, c'est ce qu'on disait hier soir sur le principe de précaution, c'est que les instruments, théoriques, qui sont des instruments d'aide à la décision, qui seraient amenés à dire, mais regardez, on a calculé, il y a l'avantage et l'inconvénient, regardez comme l'avantage est supérieur, donc il faut aller dans ce sens-là, eh bien, sont contestés. Donc, on aboutit à la décision, qui est paralysante et qui est très mauvaise. En même temps, vous pouvez dire qu'en état des choses, et en fonction des pouvoirs et des enjeux qui sont les nôtres, tant mieux si on décide. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, d'autres décident. Oui.
La question de la délibération et de l'interlocuteur de la délibération ne semble pas se poser seulement dans le domaine de l'entreprise, mais également dans le domaine politique en général. Et Pascal Lamy, donc ancien commissaire au commerce extérieur de la Commission, a écrit il y a quelque temps un bouquin là-dessus, je ne sais plus le titre, mais dans lequel il pose la question de la légitimité et de l'efficacité. Il dit dans le domaine politique, dans le domaine politique, actuellement, des organismes légitimes mais inefficaces comme l'ONU, et des organismes efficaces mais non légitimes comme Greenpeace. Et donc la question, ce serait de voir si on peut faire émerger c'est un processus, donc il n'existe pas. Est-ce qu'il y a un processus qui permet de faire émerger des organismes de gouvernance politique, mais un peu transposés dans le domaine de l'entreprise, qui seraient à la fois efficaces et légitimes. Et le processus que lui entrevoit dans le domaine politique, pour voir s'il est transposable, ce serait de considérer des organismes politiques régionaux, par exemple en Europe, l'Union européenne, et de commencer par faire dialoguer des organismes régionaux et puis de tâcher de monter en charge vers une gouvernance mondiale.
Je crois qu'il faut dire, on est confronté à un problème de la décision. Donc, à partir du moment où nous avons mis à l'agenda de nos préoccupations les problèmes du futur, les problèmes de l'environnement, toute cette couche de problèmes qu'on a introduit en les introduisant la préoccupation de l'incertitude dans la décision, se pose le problème de l'organisation de la décision. Il y a plusieurs dimensions dans cette organisation. Il y a d'abord la dimension des assemblées, en quelque sorte, qui sont les acteurs qui doivent être convoqués à la décision. Et dans ces espaces-là, les acteurs sont beaucoup plus nombreux et différents que dans l'espace social. Donc on a, pour le moment, on a affaire à une prolifération d'acteurs. Et en même temps, pour trancher entre les acteurs, il n'y a pas de principe. On ne sait pas les hiérarchiser. On ne sait pas comment faire. Et pour ça, il y a une raison fondamentale, c'est l'incertitude qui fait que personne n'a un instrumentel qui peut dire celui-là il est qualifié, celui-là ne l'est pas. Toute personne qui veut rentrer dans le champ, d'une certaine manière, même si elle est très minoritaire, on ne peut pas l'exclure. Parce qu'on ne peut pas savoir si finalement ce n'est pas elle qui apporte le signe, le signal, l'alerte dont tout le monde a besoin pour prendre la décision. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on met les pouvoirs publics dans une difficulté. Cette difficulté, donc d'avoir à prendre des décisions dans ce contexte-là. Et pour pouvoir prendre ces décisions, on cherche à créer des instruments d'aide à la décision. Mais là, non plus du tout dans une vision délibérative et donc de démocratie, mais dans une vision administrative et de décision publique. Voilà. Les instruments, on va leur dire, pour trancher ces questions-là, il faut appliquer le principe de précaution. Les mecs se disent, merde, qu'est-ce que ça veut dire? Surtout, qu'est-ce qu'ils entendent d'eux? Principe de précaution, qu'est-ce que ça veut dire pour le nombre d'années de prison que je suis capable de faire si je me suis gouré dans la décision concernant la vaccination contre le virus H1N1? D'accord? Donc, au lieu d'être une aide, c'est une difficulté. Et puis, là-dessus, on va pas revenir à dire, là-dessus, des groupes s'en emparent et disent, voilà ce qu'il faut faire, etc. Donc, immédiatement, il y a aussi une contrainte dans le terrain social. Alors là-dessus, ils disent, on va essayer de s'en débrouiller parce qu'on va avoir des modèles de décision. Comme ça, nous, on aura plus à décider. On va dire, on va adopter un modèle de décision, puis comme ça, tout le monde sera d'accord. D'où la prolifération de débats sur les calculs de risque, le coût-bénéfice-avantage, etc., qui sont des instruments de la décision administrative. Comment faire, mais en réalité, pour un politique, ne pas avoir à décider. Comment faire pour avoir appliqué une procédure, et à ce moment-là, on pourra. Oui, on est dans un moment très compliqué où nous avons mis à l'agenda de nos décisions donc des choses qui sont incontournables, qui concernent notre avenir, mais quand nous faisons ça, nous n'avons pas en même temps les instruments adéquats, et je ne sais pas s'il sera possible de les avoir un jour. De la décision. Simplement, on voit simplement qu'on est divisé entre deux univers. D'un côté, il y a la poussée d'univers de la démocratie, donc côté participatif, association, etc. Et puis d'un autre côté, au contraire, la poussée de l'administration. Hein? En principe, plus vous êtes dans un univers administratif, c'est un peu deux pieds, un peu hétérogène. Mais en réalité, il y a les deux qui se développent, sauf que ma vision personnelle, si vous voulez tout savoir, c'est que moi je pense que, en réalité, les instruments d'adhésion publique sont énormément affaiblis plutôt qu'ils ne sont renforcés. Ils sont renforcés en droit, mais ils sont terriblement affaiblis en fait. La décision publique est devenue beaucoup plus difficile en fait qu'avant. Donc en réalité, on a un pouvoir des groupes beaucoup plus qu'un pouvoir des groupes.
Vous ne pensez pas qu'il y ait une troisième quand vous dites qu'il y a deux choses qui sont importantes, la démocratie d'un côté et la juridiction administrative de l'autre. Vous avez quelqu'un qui est plus au milieu, qui est économique, et qui, lui, essaie de garder un pouvoir qu'il a aujourd'hui, qui est un pouvoir de domination, et de pouvoir décider tout seul. Puisqu'il se dit, il y a la démocratie qui arrive, je me rends bien compte, je vais faire un RSE, qui est un jeu du côté démocratique, et je vais regarder au niveau administratif, que je puisse être dans les règles, et prendre le moins de responsabilités possible par rapport à la responsabilité que j'ai. Est-ce qu'on n'a pas un peu cet élément-là où l'économie est un peu au centre et
D'accord. Alors, je pense qu'il faut introduire d'abord un troisième personnage, qui est celui qui est appelé constamment à trancher dans des situations d'indécision, des conflits, puisqu'on voit que tout ça organise des conflits, de droit, qui sont les juges. Vous avez un premier corps qui a de plus en plus de place et qui prend des décisions qui sont dans un univers de normes qui est extrêmement déstabilisé parce que c'est un univers de normes qui n'est plus national. Enfin, c'est un problème qui est assez passionnant. C'est qu'un juge aujourd'hui est titulaire de normes nationales, européennes et globales. Si vous avez à trancher le problème de l'environnement, vous pouvez vous référer au code de l'environnement français, vous avez tout le droit communautaire de l'environnement qui s'applique en France, et vous avez le droit, tout le droit qui est produit par une multitude de conventions sur la protection de l'air, de l'espèce, de machin, avec des grandes formules globales, vous savez, les considérants qui sont au début, etc., qui vous donnent des latitudes de décision, absolument, et dans nos constitutions, les conventions auxquelles les États ont souscrit s'imposent à la Constitution, au droit interne. Hein. Donc, alors, face à ça, vous avez une décision. On a une décision en France qui a fait énormément parler en matière de téléphone d'antenne mobile. Non. C'est une histoire assez amusante, c'est une histoire très intéressante. Donc, vous savez, le problème, c'est que le gouvernement français a un grand succès d'ailleurs, organisé le développement de la communication, de la téléphonie mobile, en mettant des opérateurs en concurrence, et en particulier en concurrence dans la construction du réseau. Donc qu'est-ce que vous faites quand vous faites ça? Alors, vous avez un truc extrêmement actif, avec des mecs qui cherchent à foutre des antennes, partout au même endroit, en concurrence les uns avec les autres. Bon, donc vous multipliez les antennes. Mais vous mettez des antennes, les endroits sont favorables, d'autres moins favorables, etc. Et il faut trouver des terrains, il faut les occuper, etc. Donc il y en a qui sont un peu sauvages et qui foutent des antennes, vraiment, donc, avec une vision totalement unilatérale. Il y a des cas en France, foutaient une antenne, les gens avaient acheté une superbe maison, j'imagine, qui dominait le Rhône, et qui ont foutu une antenne devant. Ou toute la vue du Rhône. Donc, quand le propriétaire voit ça, il est terrifié. Il a mis toutes ses économies dans sa maison, il y a une antenne devant, ça y est, brusquement, il découvre que ça y est, ça ne vaut plus rien, que personne ne pourra acheter sa maison, etc. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Faire un procès. Donc, il faut démonter l'antenne. C'est, je pense que c'est d'abord une question financière, une question de valeur de sa propriété, donc il faut démonter l'antenne. Alors, il veut démonter l'antenne par les mesures du droit administratif, l'autorisation n'est pas exacte, l'autorisation a été mal fondée, etc. Le problème, c'est que le droit administratif français ne permet pas, ne donne pas de moyens. Qu'est-ce que fait la personne en question? Elle va dire, ça me rend malade. Donc, elle va utiliser sa plainte, sa revendication, elle va la déplacer sur un autre terrain qui est susceptible d'être plus profitable. Bon, c'est le grand truc.
dans les gens qui sont pour la propriété est un peu saccagée, c'est qu'ils disent oh, ben, ça me rend malade, ça me donne des nausées, ça me donne. Et alors, le dernier truc, c'est que sur ce terrain-là, donc il y a toute une invocation du principe de précaution, et il y a une décision très amusante du tribunal, de la Cour d'appel de Versailles, qui est une grande cour d'appel en France, qui, sur l'argumentation suivante, est de dire c'est vrai que il y a un débat sur la nocivité des antennes. On ne peut absolument pas dire que les antennes soient nocives. Mais on ne peut pas ne pas constater qu'il y a une multitude de rapports qui contestent la thèse que les antennes ne sont pas nocives. Et donc on ne peut pas constater que cette affluence de rapports, cet empilage de controverses, ne soit pas angoissante pour les riverains. Et un riverain, un citoyen, a le droit de ne pas vivre angoissé. Et donc, au nom de la théorie des troubles anormaux de voisinage, je me vante de la destruction de l'antenne. Donc là, vous voyez, c'est assez intéressant dans la manière dont les choses s'élaborent comme ça, de façon par étage, c'est que ce qui donne le droit, c'est pas que l'antenne soit dangereuse. Ce qui donne le droit, c'est qu'on ne sache pas si elle est dangereuse. Et que ça crée une angoisse, et qu'on a le droit de ne pas vivre angoissé. Et que le juge devient. Et oui, bien ce que fait le juge dans ce cas-là. Le juge se substitue à l'administration. Alors, c'est l'administration qui, en principe, est en charge du pouvoir de police et de l'éditeur. Enfin, c'est des problèmes de tranquillité publique, ça, c'est des problèmes de salubrité. Ça relève de l'administration. Et comme on dit, le juge dit, mais le juge va contre l'administration, fait valoir le droit du citoyen par rapport qui considère qu'une politique publique d'équipement de la France lui cause des dommages particuliers. C'est pour moi un exemple assez caractéristique de cette dispersion et du fait, dans cette histoire-là, donc le juge a obtenu la destruction de l'antenne, enfin le démontage de l'antenne. Vous voyez bien que une personne, sur la base de son angoisse, est capable de mettre en échec une politique publique globale. Donc, voilà. Donc ça montre le. Comment voulez-vous toute cette manière pour quelqu'un de prendre la parole et de s'inscrire dans le débat public?
Pour conclure, parce qu'il faut qu'on conclue, on a promis de s'arrêter à midi et demi, et il y a encore tellement de questions, on peut peut-être les continuer autour d'un déjeuner pour ceux qui veulent. Juste une question, est-ce qu'en l'absence de mécanismes satisfaisants de délibération, est-ce que la réputation aujourd'hui des grandes entreprises n'est pas le moyen par lequel, à défaut d'autre chose, d'un plan mondial, une procédure de délibération satisfaisante, qui mène à des décisions, les organisations, les citoyens et autres ne peuvent pas justement influer, avoir une influence sur les grandes entreprises? Et parce que justement, autour de cette réputation et de la gestion de cette réputation, il y a d'énormes incertitudes pour les entreprises.
Alors, je réponds à la chose suivante. Oui, nous sommes aucun acteur, ces grands acteurs qui pour moi ont vraiment le pouvoir réel, ces grands acteurs, en même temps, n'ont pas de légitimité. Le paradoxe, c'est qu'ils sont grands, ils sont de plus en plus grands, mais ils ne sont pas légitimes. Et ils savent eux-mêmes, et ils ne se sentent pas eux-mêmes légitimes. Et donc, ils sont très inquiets, parce qu'ils vivent constamment dans la... Ils redoutent constamment, plus exactement, leur problème, c'est leur consommateur. Leur problème, c'est leur marché. Et leur marché dépend, effectivement, de la confiance, ou de la défiance, c'est-à-dire de la réputation, qu'on est susceptible de leur attribuer. Et donc, ils essayent de. Donc, il y a une bataille de pouvoir, effectivement, dans la bataille de pouvoir, bataille de légitimité entre ces acteurs et leurs clients, et leurs consommateurs, bataille qui est de savoir dans quelle mesure ces entreprises seront capables de. Comment dire, d'être les interlocuteurs de leurs clients sur des marchés. Alors, il y a une,
là, le livre fondamental, c'est le livre de Naomi Klein, Nos logos. Parce que ce problème-là se complique par le fait que la communication des entreprises sur leurs produits est une communication qui vise à l'identification, qui est une communication éthique, en fait. C'est-à-dire qu'on vous fait acheter un produit parce qu'il vous fait être. Et donc, cette dimension-là fait que si vous voulez développer vos marchés sur cette base-là, vous ne pouvez le faire qu'à partir du moment où vous avez vous-même un comportement éthique. Ou plus exactement, si vous ne l'avez pas, et si on est capable de vous le reprocher, alors vous allez perdre totalement, vous perdez tout. Donc, votre valeur dépend de votre marque, dépend de la valeur qu'on accorde à votre marque, et si votre marque est touchée, alors brusquement, vous avez le risque que instantanément tout le monde s'en détourne. Et donc, et d'où le problème de la gestion, de la conservation, de la réputation, c'est-à-dire de la valeur de la marque. Parce que la valeur de l'entreprise n'est plus aujourd'hui exactement dans ses actifs matériels, mais dans les actifs immatériels. Donc il faut d'où une bataille, il faut constamment... Alors là aussi, c'est une bataille de pouvoir, mais les associations, évidemment, attaquent sur ce biais-là. Et là, à nouveau, quand vous avez un instrument comme le principe de précaution, la manifestation de l'incertitude et donc la légitimité à pouvoir introduire dans le débat sur la qualité des produits d'une entreprise des problèmes d'incertitude, vous lui créez une instabilité terrifiante. Si vous appelez L'Oréal, ou dans un univers où les nanotechnologies commencent à devenir, d'ailleurs avec difficulté, au centre du débat public, il est clair que vous devez être, si vous appelez M. Agon, dans une situation extrêmement difficile, Mme Bettencourt, dans une situation extrêmement difficile, parce que là, vous êtes exposé à une vulnérabilité totale, et d'abord à celle de vos concurrents. Comprenez, n'importe quel concurrent, à partir du moment déloyal, peut faire apparaître, à partir d'un laboratoire bidon, une expertise disant que tel produit cosmétique est dangereux. Qu'est-ce que vous voulez? À partir de là, vous êtes dans un truc totalement immaîtrisable. Oui, là, il y a un risque pour les entreprises qui est, et pour certaines d'entre elles, qui a de quoi être. Il y a de quoi être angoissant. Alors là, vous pouvez dire, c'est qui pose un problème. Là, le problème des marchés est quand même très amusant, de savoir comment se fait. Est-ce que, par exemple, on peut voir quelle est la courbe de valorisation de L'Oréal avec la montée du débat sur les nanotechnologies? Et ça, c'est des trucs. Si vous êtes un investissement ISR, qu'est-ce que vous faites avec L'Oréal?
ISR.
L'Oréal manipule toute une série de substances compliquées. Qu'est-ce que vous faites? En même temps, vous pouvez dire, dans ce contexte-là, la valeur future de L'Oréal est extrêmement fragile. Et le problème aujourd'hui, c'est que comme Danone a un problème de yaourt en Chine, c'est un problème partout en Europe. Et comment vous allez maîtriser la qualité de votre Danone en Chine? Bon, à partir de là, ça c'est des formes de régulation. À partir de là, vous dites, est-ce que je vais en Chine? Si je vais en Chine, je suis exposé aussi au fait d'avoir des distributeurs là-bas qui font n'importe quoi, que je ne suis pas capable de contrôler. D'où les problèmes, on revient aux problèmes d'organisation de l'entreprise, de compliance, etc. Il faut que tenir les mecs que vous ne tenez pas. Vous en avez des agents qui sont partout.
Très bien. On va en rester là. Merci beaucoup. Merci beaucoup.